Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du mardi 22 octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Alberson.
Nous commençons par les titres.
Au Sénégal, l'ex-détenu Khalifa Sall, un opposant au président Macky Sall, se dit déterminé à poursuivre son engagement politique.
Au Soudan, des milliers de personnes manifestent pour réclamer la dissolution du parti du président déchu Omar El-Béchir.
Au Mozambique, la RENAMO, le principal parti d'opposition, appelle la population à rejeter ce qu'elle a qualifié de méga-fraude après les élections de la semaine dernière.
Au Canada, on s'achemine apparemment vers un deuxième mandat pour le Premier ministre Justin Trudeau et aussi la formation d'un gouvernement minoritaire.
Les États-Unis vont garder quelques forces près des champs de pétrole dans le nord-est de la Syrie pour éviter leur saisie par le groupe État islamique.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Sénégal, Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, la capitale, s'est dit hier déterminé à poursuivre son engagement politique, 3 semaines après avoir recouvré la liberté après 2 ans et demi de prison, à la faveur d'une grâce du président Macky Sall. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Je vous retrouve encore plus déterminé à déclarer l'ancien maire de la capitale devant quelques centaines de militants et cadres de son parti et de très nombreux journalistes dans une salle d'un centre de conférence à l'atmosphère électrique. Écroué en mars 2017, Khalifa Sall a été condamné en 2018 à 5 ans de prison après avoir été reconnu coupable du détournement d'environ 2,5 millions d'euros sur les caisses de la ville, accusation qu'il a toujours niée. Cette condamnation l'a empêché de se présenter à l'élection présidentielle de février dernier, remportée au premier tour par Macky Sall au pouvoir depuis 2012. Évoquant une épreuve faite de privation et de sacrifice, Khalifa Sall, âgé de 63 ans, a affirmé lundi y avoir puisé une énergie nouvelle. « Je poursuis mon engagement politique », a-t-il ajouté, alors que la grâce présidentielle n'a pas effacé sa condamnation et le laisse privé de ses droits civils et politiques, l'empêchant à ce stade de briguer un mandat électif.
En Guinée, les élections législatives, retardées depuis des mois, devront encore attendre. Lundi, l'émissaire spécial de l'Organisation internationale de la francophonie en Guinée, Thiema Koulibaly, a déclaré que la date du 28 décembre proposée par le chef de la commission électorale était à reconsidérer. L'OIF est un acteur accompagnant le processus électoral, responsable de la mise en œuvre des recommandations d'un audit du fichier électoral. Cette nouvelle intervient en pleine crise politique causée par l'ambition prêtée au président Alpha Condé de briguer sa propre succession en 2020 en tentant de changer à cette fin la Constitution.
En Gambie, un ancien compagnon d'armes et bras droit de l'ex-président Yahya Jammeh, aujourd'hui réfugié en Guinée équatoriale, a poursuivi hier son témoignage devant la commission Vérité et Réconciliation. Edward Singaté a admis sa part de responsabilité pour l'arrestation, la torture et l'exécution d'opposants supposés. Lors de ses auditions de mercredi et de jeudi, il avait reconnu sa responsabilité dans l'assassinat en novembre 1994 de 11 militaires accusés par le régime de préparer un contre-coup d'État. Selon lui, Yahya Jammeh avait donné l'ordre de ne pas faire de prisonniers. Mais Edward Singaté a assuré ne pas avoir lui-même procédé à des exécutions ou tiré sur des prisonniers qui s'échappaient.
Au Maroc, une coalition représentant une trentaine d'associations des droits de l'homme s'est alarmée hier de l'état de santé de Rabih Al-Ablak, un détenu du mouvement de protestation Irak dans la région historiquement frondeuse du Rif en 2016. La coalition a appelé à une intervention d'urgence pour le sauver. Rabih Al-Ablak, un militant et journaliste citoyen âgé d'une trentaine d'années, est incarcéré depuis juin 2018 et fait la grève de la depuis 45 jours pour dénoncer ses conditions de détention et ce qu'il a appelé un procès inique. Le mouvement de protestation dans le Rif avait été déclenché par la mort en octobre 2016 d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures en tentant de s'opposer à la saisie de sa marchandise.
Au Soudan, des milliers de personnes se sont rassemblées hier dans plusieurs villes, dont Khartoum, la capitale, pour réclamer aux nouvelles autorités la dissolution de l'ancien parti au pouvoir du président déchu Omar El-Béchir. Les précisions d'Éric Manirakidza.
Une foule d'hommes et de femmes se sont rassemblés à Khartoum, à Omdurman, la ville jumelle, à Madani, à Al-Obeid, à Port-Soudan et à Zalinj pour exprimer leur soutien aux autorités chargées de la transition vers un régime civil. Des banderoles appelant à dissoudre le parti du Congrès national ont été brandies à Khartoum. Ces rassemblements organisés par les forces pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation, ont également demandé justice pour les martyrs. La contestation affirme que plus de 250 personnes ont été tuées pendant la révolte populaire. Les manifestations ont éclaté en décembre 2018 et se sont transformées rapidement dans une contestation nationale qui a conduit au départ du président Omar El-Béchir après 30 ans de règne. Par ailleurs, ces manifestations commémorent le soulèvement du 21 octobre 1964 qui avait renversé Ibrahim Aboud, chef militaire de l'époque.
Au Mozambique, la RENAMO a demandé hier à la population de rejeter ce que le principal parti d'opposition a appelé les méga-fraudes qui ont entaché les élections du 15 octobre. La RENAMO a exigé une nouvelle fois l'organisation d'un nouveau scrutin selon son chef Ossoufo Nomade. La MOMAD, la commission électorale, publie depuis vendredi des résultats partiels des élections de la semaine dernière qui donnent une très large avance au président sortant Philippe Nyusi et au parti au pouvoir Le Frelimo.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Canada, les libéraux de Justin Trudeau sont en passe de remporter les élections législatives, mais le premier ministre sortant dirigera un gouvernement minoritaire, selon les projections unanimes des télévisions lundi soir. Le point avec Jean-Roger Bion.
Les chaînes canadiennes n'ont pas prédit l'ampleur de la victoire de M. Trudeau, 47 ans face au conservateur d'Andrew Scheer, 40 ans. Les deux partis étaient donnés au coude à coude par tous les derniers sondages. Si ces projections se confirment, M. Trudeau aura remporté son pari d'un deuxième mandat malgré les nombreux scandales qui ont marqué ses 4 années au pouvoir. Mais il ressort affaibli de ce scrutin et devra donc trouver l'appui de plus petits partis à la Chambre des communes pour se maintenir au pouvoir. À la dissolution de la Chambre actuelle, les libéraux bénéficiaient d'une majorité absolue des voix avec 177 sièges sur 338. Dès ce mardi, le dirigeant libéral pourrait donc entamer des discussions avec ses plus petits partis en vue d'une alliance. Le premier test du futur gouvernement sera le discours du trône, au cours duquel le gouvernement soumet au vote du Parlement son programme législatif. M. Trudeau devrait notamment se rapprocher du nouveau parti démocratique NPD gauche de Jagmeet Singh, l'une des révélations de ces élections, ou du Bloc québécois, formation indépendantiste dirigée par l'autre révélation de la campagne, Yves-François Blanchet.
Les États-Unis gardent quelques forces près des champs de pétrole dans le nord-est de la Syrie pour empêcher le groupe État islamique de les saisir. C'est ce qu'a déclaré hier le chef du Pentagone, Mark Esper. Un convoi militaire américain de plus de 100 véhicules a traversé lundi la frontière entre la Syrie et l'Irak dans le cadre d'un retrait ordonné par le président Donald Trump dans le nord de la Syrie. Mais selon M. Esper, quelques forces américaines continuaient leur patrouille avec les forces démocratiques syriennes menées par les Kurdes près des champs de pétrole.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé hier soir qu'il renonçait à tenter de former un gouvernement, laissant ainsi la voie libre à son rival centriste Benny Gantz. Des détails avec Bagessi Koura.
Dans une vidéo mise en ligne sur son compte Facebook, Netanyahou, s'adressant aux citoyens israéliens, affirme, je cite, « J'ai annoncé au président que je lui rendais mon mandat de tenter de former un gouvernement », fin de citation. Le président Rivlin a indiqué dans un communiqué qu'il avait l'intention de mandater désormais Benny Gantz, chef du parti bleu-blanc, pour tenter à son tour de former un gouvernement. Toutes les factions de la Knesset vont être informées que, je cite, « le président a l'intention de transférer le mandat pour former le gouvernement dès que possible au président du bleu-blanc, le député Benny Gantz », selon le communiqué. Benny Gantz, un ancien chef de l'armée, disposera aussi de 28 jours pour remplir cette tâche qui s'annonce difficile. À l'issue des élections législatives du 17 septembre, Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz ont récolté respectivement les soutiens de 55 et 54 élus pour diriger le prochain gouvernement, mais sans atteindre le seuil de 61 députés, la majorité qui leur permet de former un gouvernement.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
L'Angola a lancé une sorte d'audit sur la qualité des actifs des banques commerciales qui devrait être finalisée à la fin de ce mois d'octobre. Les banques considérées comme ayant besoin de se recapitaliser auront jusqu'à juin 2020 pour le faire, sans quoi elles perdront leur licence. Cet audit a été initié sur la base d'un accord signé avec le FMI pour bénéficier d'une ligne de crédit de 3,7 milliards de dollars sur 3 ans en vue de soutenir les réformes économiques. Le Congo-Kinshasa recevra le mois prochain une mission du Fonds monétaire international qui devrait aboutir à l'octroi d'une ligne de crédit en 2020 pour aider le pays à se refaire une santé financière et économique. Selon la Tribune Afrique, des experts du Fonds vérifieront la capacité de la Banque centrale congolaise à bien gérer les finances qui lui seront versées et à communiquer des informations financières fiables sur la période du prêt. Pour terminer, le projet de développement du port de Bagamoyo en Tanzanie ne pourra être exécuté que si l'investisseur China Merchant Holdings International accepte les nouvelles conditions du contrat du gouvernement tanzanien. La société devra rester assujettie au contrôle et à la réglementation des agences compétentes, ainsi qu'à toutes les taxes comme tout autre investisseur. China Merchant ne pourra ni démarrer ni gérer aucune autre activité dans le port sans l'approbation du gouvernement. En plus, la Tanzanie demeure libre de développer d'autres ports en concurrence directe avec Bagamoyo. L'investisseur aura un bail de 33 ans au lieu de 99 ans et n'aura pas de statut spécial.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Sadio Mané, Pierre Aubameyang en lice pour le Ballon d'Or 2019.
L'attaquant sénégalais Sadio Mané fait partie de la liste des nommés pour le Ballon d'Or France Football 2019. Mané a eu une année marquée par un titre de meilleur buteur du Premier League, une victoire en Ligue des Champions avec Liverpool et une place de finaliste à la CAN. De son côté, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a aussi fini comme meilleur buteur du Premier League et a joué la finale de l'Europa League. En plus de Mané et Aubameyang, Sergio Aguero de Man City, Frankie de Jong de l'Ajax Amsterdam, puis de FC Barcelone, Hugo Lloris de Tottenham et Dusan Tadic, Alexandre Mbappé, Marc-André Ter Stegen et Donny van de Beek sont aussi dans la course. Le gagnant sera connu le 2 décembre.
Troisième journée de la Ligue des Champions UEFA ce soir.
Entre autres rencontres, le Real Madrid de Zinedine Zidane doit gagner le match de la peur contre Galatasaray à Istanbul pour éloigner le spectre d'une élimination dès la phase de poule. Ce qui serait une première. Dans ce même groupe A, le PSG vise la passe de 3 à Bruges sans le Sénégalais Idrissa Gana Gueye blessé. À suivre aussi Juventus Locomotive de Moscou, Manchester City Atalanta Bergame, Olympiakos Bayern ou encore Tottenham Étoile Rouge de Belgrade.
La NBA reprend du service ce soir.
Clippers, Lakers, Rockets, Warriors, Nuggets, Sixers. Les prétendants au trône NBA auront rarement été si nombreux. La cause, une intersaison marquée par des transferts retentissants. La planète NBA brûle de voir Kawhi Leonard et Paul George arriver en force chez les Clippers, défier LeBron James et Anthony Davis, recrues phares des Lakers. La concurrence sera aussi texane puisque Houston a fait le pari de recruter Russell Westbrook pour aider James Harden à ramener un titre aux Rockets en disette depuis 1995. Plus à l'ouest, Golden State, triple champion 2015, 2017 et 2018, a perdu Kevin Durant d'abord, victime d'une rupture à un tendon d'Achille et qui a décidé de passer à l'est à Brooklyn, où il ne jouera vraisemblablement pas de la saison. Klay Thompson ensuite, qui soigne une rupture d'un ligament croisé et espère revenir fin février. Derrière, Denver, Portland et Utah pourraient toucher au but, tout comme Milwaukee et son MVP Gianni Antetokounmpo, qui auront sûrement appris de leur élimination face aux Raptors en finale de conférence. Philadelphie, portée par le Camerounais Joel Embiid et Ben Simmons, va aussi grandir avec l'arrivée d'Al Horford. En juin prochain, l'épilogue de cette 71e saison pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, tant les cartes semblent avoir été rebattues. En attendant, les champions en titre, les Raptors de Toronto du Camerounais Pascal Siakam et Pelican ouvrent le bal à 16h temps universel. Juste après, les Clippers et les Lakers joueront à 18h30 temps universel.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, un séparatiste anglophone s'est autoproclamé roi du district de l'Ebialem. L'armée a lancé un raid pour le capturer. Les combats ont fait 11 morts et un policier a été décapité. Le roi autoproclamé a fait pourchasser les chefs traditionnels dont certains rescapés ont fui vers Yaoundé. Le reportage de Moki Edwin Kinzega, repris ici par Ekiabadou.
L'Ekeaka Oliver, combattant séparatiste et proclamé souverain du district de l'Ebialem dans la région anglophone du sud-ouest. Fortement gardé par ses combattants et entouré de plusieurs femmes, Oliver, vêtu de son costume traditionnel, annonce qu'il est le seul roi de l'Ebialem. Ses partisans ont attaqué et chassé de nombreux chefs traditionnels et notables. Ils sont accusés de soutenir le gouvernement central. Au moins deux chefs traditionnels ont été tués et ceux qui ont pu s'échapper sont scandalisés par la profanation de leur palais. Andreas Lekunze Nembo, chef du village de Bamumbu et président de la conférence des chefs traditionnels de l'Ebialem.
Il y a du feu dans la maison, le feu parce que nos coutumes, traditions et patrimoine culturel continuent d'être maltraités. La profanation d'un palais par les séparatistes. Ensuite, il y a l'insécurité générale, l'intimidation et les action barbare à notre grande surprise.
Pour tenter de mettre la main sur Oliver, l'armée dit avoir effectué des raids sur des camps séparatistes de l'Ebialem, tuant au moins 6 combattants. D'autres combats ont eu lieu dans les villes de Bamenda et Ndop, dans le nord-ouest du pays. 5 autres séparatistes ont été tués, mais un policier a été décapité. Le colonel Son Joseph Adjang du ministère de la Défense précise que 7 personnes ont déjà été décapitées le mois passé.
Nous nous demandons pourquoi couper la tête de quelqu'un qu'ils ont déjà tué. C'est peut-être pour faire peur à nos soldats, mais nous restons déterminés malgré toutes ces atrocités.
Pour Deben Tiofo, gouverneur de la région anglophone du Nord-Ouest, les services de sécurité essayent de mettre fin à la barbarie.
C'est insupportable et au nom du gouvernement, nous condamnons fermement et des enquêtes sont en cours pour découvrir ceux qui ont commis cet acte diabolique.
Au début de ce mois, le président Paul Biya a organisé ce qu'il a appelé le grand dialogue national pour résoudre la crise qui a fait près de 3000 morts. Les groupes séparatistes ont qualifié ce dialogue de non-événement et ont refusé de participer. Il y a plusieurs recommandations, dont celle d'accorder plus d'autonomie aux régions anglophones et faire élire les gouverneurs de ces régions au lieu qu'ils soient nommés par Yaoundé. À la fin de cette rencontre, le président Paul Biya a fait libérer 333 prisonniers, dont l'opposant Maurice Kamto.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Mali, l'armée nationale, avec l'appui de ses partenaires dans la zone de Boulkessi, a mené des frappes aériennes et des opérations terrestres. C'est ce qu'a annoncé au week-end l'état-major général des armées. Les attaques simultanées de Mondoro et Boulkessi ont provoqué d'énormes dégâts dans les rangs des FAMA et des assaillants. Précision de Mamoudou Bokoum.
Après les attaques simultanées de Mondoro et de Boulkessi, des actions sont menées sur le terrain qui ont donné, selon la hiérarchie militaire, des résultats probants. Colonel-major Oumar Diarra, commandant du théâtre du centre de l'opération Dambé.
Le bilan actualisé est le suivant. À peu près 80 ennemis neutralisés, 100 de blessés, des matériels détruits et un important pôle logistique de 35 fûts de carburant détruits. Côté ami, 40 morts, 36 rescapés dont 17 évacués, 13 sur Bamako et 4 actuellement à Sévaré, 2 rescapés retrouvés au Burkina et acheminés à Bamako le 15 octobre.
À ce bilan, il faut ajouter le cas des disparus comme le signale le colonel-major Oumar Diarra.
18 éléments dont 14 parachutistes et 4 gendarmes qui devaient rejoindre Boulkessi aussi à faire des formations pour certains et des permissions pour d'autres, étaient en fait présents à Mondoré et Dinangourou. Ils ont été désengagés du théâtre, des opérations et ont rejoint leur famille. Donc à l'heure actuelle, à la lumière de ce qui précède, le bilan des portés disparus est revu à la baisse avec un chiffre de 27 militaires. Tout au plus.
Dans cette conquête du Fort 11 de Boulkeïsi, il y a eu l'apport des partenaires. Mais pour plus de résultats, le général Babi veut la promptitude et l'optimisation de toutes les capacités disponibles.
Le travail avec les partenaires est à saluer et les encourager davantage à ce qu'on évite parfois une lenteur et parfois la limitation même dans l'emploi de certaines capacités. C'est un dialogue que nous allons continuer avec les partenaires pour que, effectivement, les capacités qui sont disponibles soient optimisées pour les besoins d'opérations et de sécurisation dans notre pays et nous assurer que vraiment nous stabilisions ensemble les efforts entrepris et que nous continuions à lutter ensemble en mobilisant les capacités et dans les délais requis.
Il faut noter que le commandement militaire a confirmé la présence des femmes aux côtés des assaillants à Boulkeïsi. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
La Russie a été active sur le continent africain ces dernières années. Moscou a reconnu que des Russes se trouvaient à bord de l'avion qui s'est écrasé récemment en République démocratique du Congo, et des Russes ont aussi été tués dans des batailles en Libye. Le président Vladimir Poutine a accueilli cette semaine à Sotchi des dizaines de chefs d'État africains pour une conférence de 2 jours. C'est le premier grand rassemblement de dirigeants africains en Russie depuis la chute de l'Union soviétique en 1991. Le point avec Lionel Gahima.
Le sommet se tient à la station balnéaire de Sotchi, un joyau qui a coûté 1 milliard de dollars pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver en 2014. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin.
La Russie a des choses à offrir en termes de coopération mutuellement bénéfique avec les pays africains.
La présence russe sur le continent était négligeable depuis la fin de l'Union soviétique en 1991, mais au cours de ces dernières années, la Russie est revenue sur le continent pour raviver les liens anciens et forger des nouvelles relations. Paul Stronsky, analyste au Carnegie Endowment, un groupe de réflexion basé dans la capitale américaine.
L'Union soviétique a apporté son soutien au mouvement de libération en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau. Elle s'est impliquée dans les conflits de l'Ogaden ou a aidé le régime marxiste éthiopien. Mais lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, toutes ses relations ont été brutalement interrompues.
Les dirigeants de l'Angola, où la Russie a investi dans le diamant, et ceux de l'Éthiopie seront parmi les 10 000 invités venus de 35 pays africains. Le Nigeria, où les Russes ont investi dans le pétrole et le gaz, sera représenté tout comme le Ghana. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que le commerce avec les pays africains a augmenté de 350% pendant la dernière décennie. Les entreprises russes participent à des grands projets comme la construction de la première centrale nucléaire en Égypte ou la mise en valeur immense gisement de minéraux au Zimbabwe. En Guinée, l'ambassadeur russe à Conakry, Alexandre Bregadze, a ouvertement soutenu le président Alpha Condé pour modifier la constitution afin de remplir un troisième mandat. Il sera rappelé à Moscou avant d'être renvoyé en Guinée comme directeur général de Rusal, la société russe d'aluminium qui tire le tiers de sa bauxite en Guinée. Édouard Lucas, auteur de La Nouvelle Guerre Froide, la Russie de Poutine et la menace de l'Occident.
Les technologues politiques russes offrent des conseils d'experts sur tous les aspects de la fraude électorale, de la corruption à la propagande en passant par les cyberattaques. Les mercenaires renforcent la sécurité.
Au cours des 5 dernières années, la Russie a conclu 23 accords de coopération en matière de sécurité avec des gouvernements africains. Elle est devenue le plus gros fournisseur d'armes du continent. Moscou propose son expertise en matière de sécurité, des militaires russes et les spécialistes de la désinformation pour aider les gouvernements africains. À l'instar de la Chine, la Russie possède un avantage concurrentielle sur l'Occident. Ces ventes d'armes ne s'accompagnent pas d'un regard sur les droits de l'homme ou de la gouvernance. L'oligarque Yevgeny Prigozhin, grand ami de Vladimir Poutine, a déjà fait ses preuves sur le continent. Sa société, le groupe Wagner, a fourni les dizaines de mercenaires russes tués le mois dernier en Libye. Wagner est aussi présent en République centrafricaine. Ce sont des soldats russes qui assurent la sécurité personnelle du président Faustin Archange Touadéra. Les gouvernements du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie et du Niger se tournent également vers Moscou pour obtenir une aide militaire pour combattre les djihadistes. Le commerce entre la Russie et l'Afrique se levait à environ 20 milliards de dollars, soit la moitié des échanges avec la France et 10 fois moins que la Chine, alors que les échanges entre l'Union européenne et l'Afrique sont évalués à plus de 300 milliards de dollars par an.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Promouvoir le potentiel technologique inexploité de l'Afrique tout en faisant du continent le plus grand centre de production en termes de main-d'œuvre technologique au monde, c'est en substance ce qu'ont retenu les participants à la toute première conférence des développeurs africains qui s'est tenue le week-end dernier à Addis Abeba en Éthiopie. L'AfriDevCon a réuni les professionnels du développement informatique dans un cadre dynamique pour échanger et inspirer. Pour en savoir plus, Arzuma Compaoré a joint Abou Koné de la start-up ivoirienne Akil Technologies et Tchernonang, ancien manager pour l'Afrique francophone de Guébéa, la structure qui a organisé la conférence.
L'enjeu d'une conférence telle que celle-là, c'est de faire en sorte que les gens se regroupent, partagent, apprennent de nouvelles choses et surtout comprennent que c'est possible de faire beaucoup plus de choses ensemble. Aujourd'hui, c'est de premièrement donc, de jeter les bases d'une communauté, de faire en sorte que les compétences se parlent, s'organisent et surtout se connaissent.
Tiano Niang, je rappelle rapidement que vous êtes le responsable pour l'Afrique francophone de Guébéa, qui organise d'ailleurs cette première convention du développeur africain. Vous parlez d'enjeux, mais qu'en est-il des opportunités?
En fait, en technologie, il n'y a presque pas de barrière. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un laptop et une bonne connexion, de la créativité et du travail. Contrairement à des projets d'infrastructure, il faut des financements assez complexes pour créer un logiciel qui peut sauver des vies. Il faut juste ces éléments-là. De plus en plus de jeunes talents, que ce soit hommes ou femmes, ne demandent qu'à s'exprimer. Et je pense que la technologie et l'informatique est le médium le plus efficace pour cette tranche de la population qui est de plus en plus importante pour aller de l'avant.
Alors, M. Niang, vous êtes avec M. Abou Koné d'Akil Technologies. Qu'est-ce qui définit aujourd'hui le développeur africain?
Je pense que ce qui est intéressant à propos du développeur africain, c'est, je pense, notre éducation déjà. Elle a certaines déficiences, ce qui est vrai, mais on a une tendance à mettre l'accent sur les STEM, les sciences, la technologie. C'est quelque chose qui est valorisé chez nous, où on pousse les enfants toujours à poursuivre dans les études, dans ce monde de la technologie maintenant. Est-ce qu'on peut faire confiance à nos compétences locales? Et c'est à cette question que nous, on veut répondre emphatiquement, oui. Nous avons les compétences locales pour répondre aux problèmes locaux. On est conscient que ce n'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain ou dans les 5 prochaines années. Oui. On en discutait ce matin dans un des panels dans la conférence. On pense que c'est quelque chose qui va... Il y a une génération, peut-être nous, qui devra se sacrifier pour que ceux qui viennent après puissent en tirer les fruits.
La Chine, l'Inde, les Philippines sont connues pour leur forte présence dans le domaine du développement informatique international et surtout l'externalisation ou la sous-traitance des tâches informatiques. Quelle place pour l'Afrique?
Disons que l'Afrique n'est pas encore connue comme une destination de outsourcing, au même titre que les Philippines ou l'Inde. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille. C'est quelque chose, comme je dis, c'est un travail qui va prendre du temps. C'est un travail de longue haleine, mais on pose les jalons chaque jour.
Notre idée, c'est qu'il faut se positionner dès maintenant. Et dès maintenant, c'est quoi? C'est d'abord par rapport à la qualité. Donc, viser quelques succès, parce qu'on est sûr de les contrôler pendant ce temps, travailler sur le facteur quantité, parce que c'est ça qui va nous permettre d'asseoir la demande. Donc, que ce soit le privé en interne aussi, l'État, les gouvernements qui supportent aussi cet écosystème, vont faire en sorte que non seulement mais la demande est là à court terme, à moyen terme, mais surtout, et le plus important, c'est à long terme. On connaît surtout l'Afrique par rapport à sa créativité et à l'art, mais il y a d'une certaine façon, le développement, c'est de l'art et de la créativité.
Exactement.
Et donc, si on nous connaît pour ça, je pense qu'on n'aura pas de mal aussi à se faire connaître dans ce secteur.
Abou Koné de la start-up ivoirienne Akil Technologies et Tierno Niang, manager pour l'Afrique francophone de Guébéa.
Hey there, hello! VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Charleston Mock. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seludia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.